Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Élisée Oumpatine depuis Boyoukon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Kader Traoré en direct depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé, où il nous parlera du Tour cycliste international du Faso. Kader, bonsoir.
Bonsoir à vous Yacouba Ouédraogo, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Dernier virage en Coupe CAF, les matchs allés du tour de cadrage qualificatif pour la phase de poule ont eu lieu ce week-end. Mais avant d'en parler, nous allons rester ici aux États-Unis pour retrouver Amdine Sy à New York. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Vous voyez, quand vous nous rejoignez, bien sûr, sur place, on vous oublie le plus souvent. La grosse surprise est venue de Madagascar où Fossa Junior a dominé la Renaissance sportive de Berkane, finaliste pourtant à l'édition précédente 2-0. Amine, les Berkanis se compliquent la tâche.
Ils se sont tirés une balle dans le pied, Yacouba, c'est le moins que l'on puisse dire, d'autant plus que ils ont débarqué à Madagascar quasiment au complet, se manquait à l'appel le capitaine Mshaoui qui purge toujours sa suspension de 4 matchs fermes après son expulsion lors de la finale retour de la Coupe de la CAF face aux Zamalek la saison dernière. L'équipe de Berkane a pris le match très au sérieux, elle a débarqué à Madagascar 3 jours avant le match après un long voyage et visiblement n'a pas pris les précautions nécessaires, peut-être qu'elle connaissait beaucoup moins l'adversaire que l'équipe de Fossa Junior qui devait certainement avoir bien appris et potassé sa leçon. L'équipe berkanaise a encaissé un but dès la 10e minute de jeu. On a vu une telle passivité défensive puisqu'ils étaient 7 défenseurs dans la surface de réparation pour 2 attaquants. Et pourtant, c'est l'équipe malgache qui a réussi à marquer ce premier but d'une frappe en plein lucarne. Berkane a fait pression, cherché le but égalisateur, s'est créé de très nombreuses occasions, a même eu un pénalty manqué par l'Albinagi. Et puis en toute fin de rencontre, alors qu'il faisait le forcing pour pouvoir au moins marquer ce but à l'extérieur et revenir au Maroc avec un nul synonyme quasiment de qualification, l'équipe malgache a bénéficié d'un pénalty transformé. 2-0, c'est une situation à laquelle a été confronté à 2 reprises la saison dernière l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Une première fois lorsqu'ils avaient été battus par le Djarab du Sénégal 2-0 lors d'une rencontre qui avait été reportée de 24 heures et où Berkane avait réussi à tirer son épingle du jeu au match retour. Et puis, la saison dernière, rappelez-vous, après avoir concédé un 2-0 à Sfax, l'équipe avait réussi une remontada, l'emportant 3-0 et se qualifiant pour la finale. On verra si on va appliquer le fameux dicton « jamais 203 » ou si cette équipe a montré ses limites, d'autant plus qu'aujourd'hui, après le départ aux Émirats Arabes Unis de Nabakojo, elle n'a pas trouvé le killer des surfaces qui lui permettrait de débloquer la situation. Berkane va devoir s'appuyer au match retour sur ses atouts, c'est-à-dire la capacité à exercer un gros pressing, le soutien du public et puis une capacité à transformer les situations de jeu favorables, notamment sur coup de pied arrêté. Mais attention, le football malgache est en train de progresser à grands pas. Cette équipe de Fossa Junior en est l'illustration, d'autant plus qu'elle avait vendu très chèrement sa peau lors du tour préliminaire de la Champions League devant le TP Mazembe et elle ne débarquera pas au Maroc au match retour en victime expiatoire.
Et justement, Jules, on a cette surprise que sont les Malgaches de Fossa Junior qui ont fait mieux que se défendre, Amine le disait tout à l'heure, face aux Marocains de Berkane. Alors, Madagascar qui perce en compétition africaine interclub, est-ce l'effet de la percée en CAN ou l'inverse, c'est-à-dire des clubs comme Fossa Junior qui ont en réalité suscité cette performance en CAN?
Je pense qu'il s'agit des deux, c'est-à-dire la prestation à la phase finale de la CAN n'a fait que encourager les Malgaches à poursuivre leur progression. Mais pour ceux qui connaissent le football malgache depuis très longtemps, il a de grandes potentialités et surtout un jeu vraiment collectif et physique, un grand abattage sur le terrain qui peut gêner n'importe quelle équipe. Donc pour moi, ce n'est pas tellement une grande surprise que de voir une équipe qui a peut-être pris un peu trop de haut, l'adversaire est tombé comme cela dans un match surprise.
Alors, Amine, je reviens à vous. L'autre club marocain, Hassania d'Agadir, a ramené le point du nul 1-1 de la Zambie devant Greenbelt. Un bon résultat à prendre?
Un résultat qui est bon à prendre, d'autant plus que Hassania d'Agadir avait fait le forcing pendant les 20 premières minutes avant de perdre pied physiquement sur un terrain pas très praticable. L'équipe zambienne a gagné la deuxième partie de cette première mi-temps, ouvrant le score et se créant de nombreuses occasions d'aggraver la marque. Puis on a vu un changement de physionomie en deuxième mi-temps avec une équipe marocaine beaucoup plus concentrée sur son sujet, qui a su appliquer la recette qui lui avait permis d'atteindre les quarts de finale de la précédente édition, c'est-à-dire une solidarité entre toutes les lignes, une capacité à jouer dans les intervalles, alterner jeu court et jeu long. Et finalement, le salut est venu d'un défenseur, le vétéran et capitaine Ferrami, qui a inscrit le but égalisateur à la 89e minute de jeu. Un but partout, mais attention, les Green Eagles, lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions, avaient perdu à domicile contre Petro Atlético sur le score de 2-1, mais ils avaient réussi tout de même à gagner au retour 1-0. C'est donc une équipe qui peut être beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle est loin de ses bases que lorsqu'elle est obligée de jouer à Lusaka. Et donc, les Gadiris seront prévenus, d'autant plus qu'ils auront une semaine très chargée, puisque, outre un match de championnat, ou plutôt un match de Coupe du Trône auquel ils devront disputer en milieu de semaine, il y a aussi le cumul de fatigue et surtout un long voyage, 2 fois 24 heures, c'est pas facile à digérer. On verra si les capacités de récupération, les kinés, les services médicaux vont être sollicités pour cette confrontation qui pourrait permettre au club marocain d'atteindre pour la deuxième fois de son histoire la phase de groupe de la Coupe de la CAF.
Bonne opération pour les Zambiens de Zanaku à Malabo contre Kanou Sport 3-1. Les Maliens de Djoliba ont battu Electre Sport du Tchad 1-0. Le champion du Togo, l'ASK, a réalisé un bon coup, 2-1 devant les Nigériens des Nungu Rangers. Les Égyptiens d'El Masri ont pris une grosse option pour la qualification en allant gagner aux Seychelles contre Côte d'Or 4-0. 2-0 pour le club nigérien Nimba contre les Sud-Africains du TS Galaxy. Alors, Jules, bien évidemment, c'est une élimination Si c'est une élimination surprise des Nigériens qui allaient créer un coup de tonnerre et pas l'inverse.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, à la Coupe de la CAF, de la Confédération, et il y a toujours ce genre de surprise dans la mesure où les adversaires, souvent moins connus, et sont également. Disons que sur le plan au niveau du jeu sont à découvrir. Donc, de temps en temps, des surprises comme celle-là apparaissent.
Alors, Élisée, la véritable bonne opération est à mettre à l'actif du Oroya de Guinée qui a surclassé les Kenyans de Bandari 4-2 avec un Aristide Bansé bien en forme.
Oui, très en forme, il faut dire que cet attaquant burkinabé qui a fait plusieurs clubs sur le continent africain, c'est vrai qu'il a joué longtemps en Europe avant de revenir en Afrique, on l'a vu du côté de El Masr en Égypte, on l'a également vu du côté de l'Afrique d'Abidjan, et compte tenu de son expérience, il a beaucoup pesé dans cette explication et a permis aux Guinéens de l'emporter sur la marque de 4-2. Maintenant, il ne faut pas oublier, puisque Peladete a mis 2 buts, et qu'en cas d'une défaite de 10.
Et donc, Élisée Nkwatine, qu'on a perdu, qu'on va essayer de retrouver. Le match à santé côte à côte, San Pedro avait été arrêté à la pause à cause de la pluie sur le score de 0-0 et a repris ce soir. Victoire donc des Ghanéens 1-0 devant les Ivoiriens de San Pedro. En attendant donc le match retour, le match entre les Sénégalais de Génération Foot et les Béninois d'Essaé aura lieu ce mercredi. En attendant, on jouera ici celui entre Amdine Sy et Élisée Nkwatine. Alors Amdine, je commence par vous. Les Sénégalais de Génération Foot voudront se consoler après l'élimination face aux Amalek en Ligue des Champions.
Tout à fait, Yacouba. C'est une opération rachat pour l'équipe de Génération Foot qui a été éliminée par les Amalek. Maintenant, bon, ils vont essayer de se consoler en décrochant une qualification pour les phases de poule de la Coupe de la CAF. Mais ce ne sera pas du tout évident puisque on a en face l'équipe de mon cher ami Élisée. Les Béninois, une équipe qu'on ne connaît pas du tout, une équipe d'une école supérieure d'administration des métiers d'audiovisuels. On ne connaît pas cette équipe,
c'est la grande interrogation, puisque les clubs sénégalais ont tendance à faire de bonnes performances quand il s'agit de grands clubs comme Zamalek, comme le WAC, etc. Mais quand il s'agit de petits clubs, d'habitude, les clubs sénégalais ont tendance à baisser les pieds. Ça a été le cas pendant très longtemps. Mais j'avoue que les responsables de Génération Foot vont prendre cette équipe très au sérieux, puisqu'une équipe qui a éliminé Sanitas, votre équipe Sanitas, qui avait créé l'année dernière la surprise en se qualifiant pour la première fois de l'histoire. Donc, cette équipe à prendre très au sérieux, puisque Génération Foot doit mettre fin à 15 ans de disette, puisque aucun club sénégalais n'a réussi à se qualifier dans les phases de poule, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF, depuis 2004, avec la Gendarmerie de Dakar et Génération Foot, qui est une académie de football, n'a jamais disputé aussi ces phases de poule. Donc, ce sera une qualification historique. Je pense que c'est un match à négocier et cela passe par un bon résultat dès mercredi au stade Ladio Bétiès, Yacouba.
Alors, Élisée, les Sénégalais qui ont longtemps entendu, sans doute les Béninois aussi. Alors, disons, hein, l'ASE a montré de belles choses jusqu'ici et voudra continuer sur cette lancée.
Bien évidemment, il faut le dire, ce sera aussi une qualification historique hein, pour le Bénin. Et Amédine l'a dit, pour le Sénégal et également pour le Bénin, ce sera une qualification historique, puisque depuis hein, l'avènement des phases de groupe hein, dans ces deux compétitions africaines des clubs, aucun Béninois n'a disputé une phase de groupe hein, de ces deux compétitions. C'est vrai que Dragon a été demi-finaliste en 1987 de la Coupe des vainqueurs de Coupe, éliminé par Gomaya, futur vainqueur. Et Zahé a de très bons arguments hein, à faire valoir, surtout face à cette équipe sénégalaise de Génération Foot. Il faut dire que Salitas aussi, c'est un club de centre de formation, tout comme Génération Foot. Donc, c'est-à-dire que Ezaï, qui est dans une forme étincelante, hein, va beaucoup batailler pour pouvoir obtenir cette qualification. D'ailleurs, le club béninois a quitté Cotonou cet après-midi, même direction Dakar, puisque le club est déjà même à Dakar pour jouer mercredi prochain en championnat. Vendredi dernier, hein, le club a été battu par la jeunesse sportive de Poubert, 1-0. L'entraîneur a dû mettre beaucoup de joueurs à la touche, histoire de préparer cette confrontation, cette double confrontation contre le club sénégalais. Donc, Yacouba, ce sera un match très difficile pour les deux équipes, puisque Zahé aussi a de la valeur à revendre, hein, surtout face à un club sénégalais. Depuis un certain moment, eh bien, le Bénin perd ce match, même si c'est contre l'équipe nationale, eh bien, le Bénin n'a pas encore eu le sourire face au football sénégalais.
Football, toujours avec le mondial des moins de 17 ans qui se déroule au Brésil. Belle entame pour l'Afrique. Alors Élisée, je reviens à vous. En ouverture, le Nigeria dans la poule B s'est débarrassé de la Hongrie 4-2.
Oui, le Nigeria qui a dominé de bout en bout cette explication. Vous savez, l'Afrique est le continent qui a plus de succès dans cette Coupe du monde de catégorie d'âge. Des moins de 17 ans, le Nigeria a remporté déjà à plus de 3 fois cette compétition. Le Ghana aussi a remporté. Et donc, c'est aussi un gros challenge que les pays africains doivent relever pour cette édition. Donc, le Nigeria s'est bien contenté et s'est bien comporté durant cette explication avec une fête nette domination. On a vu aussi le Sénégal hein, qui a surclassé complètement les États-Unis qui pourtant menaient 1-0. Donc c'est dire que l'Afrique a de la valeur à revendre dans cette compétition. Les Africains sont très attendus puisque au niveau des juniors, on a remporté une seule fois une Coupe du Monde grâce au Ghana. Au niveau des seniors, rien, même pas une demi-finale. Donc c'est dire qu'au niveau des cadets, l'Afrique répond toujours présente et on espère que cette année, l'Afrique va aussi faire parler d'elle.
Alors Amdine, justement, parlant du Sénégal, on va le dire, qui a remplacé la Guinée et prise dans un scandale de trucage d'âge. Le Sénégal qui domine largement les États-Unis 4-1, c'est de bon augure pour la suite.
Oui, c'est une bonne entrée en matière pour les Lyosos du Sénégal qui ont battu largement cette équipe des États-Unis. C'est une victoire historique parce que c'est le premier match de l'équipe nationale des U17 en Coupe du Monde. L'équipe nationale senior a déjà joué sa première Coupe du Monde en 2002 et en 2018 en Russie. Il y a également l'équipe U20 qui a disputé 2 Coupes du Monde et s'est même payé le luxe de se qualifier en demi-finale l'équipe U20. Mais pour cette équipe U17, c'était vraiment les débuts réussis. Élisée l'a dit tantôt, les Lyonceaux ont été qui à froid, puisqu'ils ont encaissé un but à la troisième minute, mais cela ne les a pas empêchés de donner le jeu pour remettre les pendules à l'heure dans le temps additionnel de la première période par Souleymane Faye. Et galvanisé par ce but, les Lyonceaux du Sénégal sont revenus, hein, requinqués, et ils ont quand même dominé cette deuxième période de bout en bout en marquant trois buts, dont un sur coup franc, un fort joli but marqué par Pape Matar Sarr. Il faut reconnaître également que dans cette partie, Malick Diaf, l'entraîneur sénégalais, a effectué un coaching gagnant en faisant de bons remplacements. Maintenant, il ne suffit pas de gagner le premier match seulement, puisqu'il faut négocier. L'équipe nationale a, lors de la Coupe du Monde en Russie, avait réussi à gagner son premier match contre la Pologne 2-0, mais elle a été éliminée pour le premier tour. Donc, il faut tirer les leçons des seniors pour pouvoir quand même essayer de négocier le deuxième match contre les Hollandais et pourquoi pas décrocher une qualification pour la première fois du soir pour les Sénégalais. En tout cas, c'est bien parti pour les Lyonceaux, Yacouba.
Et donc, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Lyonceaux. Dans le groupe A, l'Angola a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Le Cameroun, dernier pays africain en lice, entre en lice 1 ce soir et fera ses débuts face au Tadjikistan à 20h, donc à tout à l'heure, disons. Alors, Jules, Élisée les fleurait tout à l'heure. L'Afrique se débrouille pas mal dans ses compétitions mondiales de petite catégorie. On a le Nigeria, par exemple, qui est le plus titré dans cette catégorie des moins de 17 avec 5 trophées. Mais après, le hic, c'est que lorsque ces mêmes garçons arrivent en senior, la réalité est tout autre. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Oui, bien sûr, c'est clair. L'Afrique est la pépinière et c'est normal qu'elle gagne dans les catégories de jeunes, mais quand les enfants avancent plus en âge, ils perdent, au niveau de la gestion des carrières en particulier. Et nous avons, il faut être bien managé et pouvoir avoir le temps de jeu suffisant qui permette de progresser. Et généralement, leur carrière est moins bien suivie. Et donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de déperditions. Mais par contre, on peut aussi indexer au niveau des Africains le fait qu'il arrive que les âges ne correspondent pas réellement et que au fur et à mesure que le joueur monte en âge, sa progression est limitée.
Alors Amine, souvent ces talents, je le disais tout à l'heure, disparaissent, hein, totalement dans la nature avant même d'atteindre les seniors. On se demande bien pourquoi.
Les suspicions ou le constat soulevé par Jules pourrait convenir parfaitement à régler cette énigme au semi-cerf. Les joueurs africains, pour la plupart d'entre eux, on ne contrôle pas certains de leurs âges, et de ce fait, sont beaucoup plus âgés que ceux qu'ils côtoient lors de certaines compétitions de jeunes, U17 ou U20, et donc leur marge de progression est beaucoup plus minime. Par contre, nous avons vu de grands joueurs africains qui ont pu flamber dans toutes les catégories. On ne peut citer qu'un Samuel Eto'o qui était apparu dès la Coupe du Monde 98 et qui a réussi à avoir une telle longévité, un tel palmarès, ce qui illustre que la matière brute existe en Afrique et qu'en la travaillant, en la faisant développer, en adoptant les méthodes de formation modernes, le joueur africain est capable un jour, je dirais, de briller dans les plus grands clubs. Maintenant, reste comment régler l'équation suivante. Comment se fait-il qu'en Afrique, on réussit à flamber et à briller dans les catégories de jeunes U17 et U20, avec différentes sélections nationales, notamment le Ghana et le Nigeria, et qu'on ne soit toujours pas capable d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, de la seule, de la vraie, de l'unique, de l'incomparable, celle qui fait rêver tout le monde? Aujourd'hui, on a frôlé cette qualification en 2010 avec le Ghana. On a rêvé un peu avec le Sénégal en 2002 et le Cameroun en 90. Et on attend toujours cette sélection africaine capable de nous faire vibrer, capable de permettre à tous ces joueurs, à tous ces talents, d'avoir la reconnaissance qu'ils méritent au plus haut niveau.
Vous l'avez suivi la semaine dernière, la FIFA a attribué l'organisation du Mondial des clubs 2021 à la Chine. Il s'agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes. Cette nouvelle formule se disputera tous les 4 ans et remplace donc la Coupe des Confédérations. L'actuelle version du Mondial des clubs oppose 7 équipes, dont le vainqueur de la Ligue européenne des champions. Alors Amine, je me retourne encore vers vous. Le constat, il est là. Le Mondial des clubs, nouveau format, se disputera pendant les années impaires, tous les 4 ans donc. Et c'est clair que chaque 4 ans, ça coïncidera avec la CAN.
Ça coïncidera avec la CAN. Il faut juste rappeler que la task force qui a étudié le projet de faisabilité de la Coupe du Monde
était présidé par Gianni Infantino. C'est un projet qu'il a rêvé, qu'il a conçu et qu'il cherche à transformer en réalité. Une Coupe du Monde des clubs appelée à remplacer la défunte Coupe des Confédérations, qui n'était pas véritablement la panacée en termes de popularité. Elle impliquerait le football des clubs, qui souvent était à l'opposé du football FIFA, du football des sélections nationales. Et puis ça donnerait du lustre à toutes ces formations qui ont été appelées à disputer le format le plus rétréci possible de la Coupe du Monde des clubs, un format à 7 équipes. Donc passer à 24, une fois tous les 4 ans, permettre de valoriser les compétitions de clubs. C'est une idée qui est judicieuse, mais elle entre en conflit frontal avec l'idée que l'on se fait de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition organisée tous les 2 ans. Un symposium organisé au Maroc a changé les dates de cette compétition pour pouvoir être en adéquation avec les desiderata des clubs européens et donc pouvoir récupérer les joueurs des sélections pendant le mois de juin. Et du coup, que va faire la Confédération africaine de football? Quelle décision elle va pouvoir prendre? Le président Ahmed Ahmed et une partie des membres africains du comité exécutif de la FIFA étaient présents lors de cette réunion en Chine. Est-ce qu'ils pourront réagir? Est-ce qu'il ne faudra pas revenir à la date initiale des compétitions africaines et de la CAN en particulier, c'est-à-dire entre mi-janvier et début février de manière exceptionnelle? Ou est-ce qu'il ne faudra pas repasser aux années paires et du coup retrouver une compétition africaine en 2022, sachant que la Coupe du Monde, par exemple, aura lieu entre le 19 novembre et le 21 décembre de cette année-là pour cause de canicule au Qatar? Donc beaucoup d'interrogations sont posées et alors qu'on démarre les éliminatoires de la CAN à partir de la quinzaine prochaine. La balle est dans le terrain de la Confédération africaine de football qui, pour rappel, est pour l'instant gérée sur le plan administratif par la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura.
Nous parlons également de cyclisme dans cette émission avec la 32e édition du Tour cycliste international du Faso qui a débuté vendredi dernier et qui s'achèvera le 3 novembre. Notre correspondant à Ouagadou, Kader Traoré, est sur les routes du Tour, il est avec nous. Alors Kader, la 4e étape courue entre Bitou et Koupéla, longue de 101,8 km, a été enlevée par un Allemand, Anton Benedikt.
Effectivement, Yacouba Ouedraogo, on a couru ce matin pour le compte donc, de la 4e étape de ce 32e Tour du Faso. Vous l'avez bien dit, la victoire est revenue à l'Allemand Anton Benedikt. Il a été suivi donc par 2 Belges, à savoir donc Timmy Debout et Peter Bouil. Il faut dire que Timmy Debout était un habitué du Tour du Faso. C'est la 5e participation de ce Belge qui vient chaque année avec l'équipe de la team Flanders. Et cette année, la Belgique, à défaut de récolter le maillot jaune, essaie de glaner des victoires d'étape. Mais pour ce qui est de l'étape de ce jour, c'est plutôt l'Allemand Benedikt Anton qui a été le plus prompt aussi la ligne d'arrivée. Il faut dire que cette étape était l'une des plus petites, les plus courtes de ce Tour du Faso. C'est d'ailleurs la 2e étape la plus courte, 101 km. Toutes les étapes sont au-delà de 130-150 km. Et il y a eu d'abord une première tentative d'échappée qui a été très vite annulée. Ensuite, c'est le jeune Burkinabé Suleiman Kone qui a mené une attaque. Il a pu réussir en compagnie donc de 2 autres coureurs à mener donc l'attaque et à se distancer du reste du peloton jusqu'à 2 minutes 6 secondes. Mais derrière, la chasse s'est organisée avec les Rwandais, une très solide formation du Rwanda qui a mené la chasse et qui a pu donc faire la jonction à 3 km à l'arrivée dans la ville de Koupéla.
Justement, Kader Traoré, on va rappeler très rapidement que le maillot jaune a changé d'épaule depuis hier à l'issue de la 3e étape.
Oui, effectivement, le maillot jaune est désormais sur les épaules du jeune Rwandais Moïse Mugisha. Il possède 37 secondes d'avance sur un Angolais qui est Dario Manuel Antonio. Il faut dire que Do Amaral était le porteur du maillot jaune depuis la première étape, la course contre la montre, mais lors de la 3e étape, il a été dépossédé de cette tunique dorée par le Rwandais qui est Moïse Mugisha.
Merci bien, Kader Traoré. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Ouagadougou et que vous suivez ce Tour du Faso pour nous. On va juste rappeler que demain, la cinquième étape se court entre Boussé et Waiguia, distance 135 km 500. L'arrivée finale est prévue pour le 2 novembre à Ouagadougou. Sporama qui va s'achever ici. Je rappelle qu'on était également avec Amine Birouk au Maroc, Gilles Valentin Ngoué au Gabon, Élisée Mpatine au Bénin, Kader Traoré au Burkina Faso et Amdine Nassi ici à New York. Devant ce micro, Yacouba Ouédraougo à la réalisation Michel Joseph. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia. VOA Afrique.